crissement de pneus. Bruit de moteur qui faiblit. J'ouvre les yeux. La nuit encore, émaillée de halos jaunâtres autour des lampadaires. Je suis allongé dans le recoin d'un parking en plein air. J'ai le dos en compote, une migraine qui m'étourdit, une douleur au niveau des hanches. Je saigne à la tête. Mon sac en toile est posé à côté de moi. Mais qu'est-ce que je fous là? Des larmes coulent sur mes joues. Peut-être que je rêve. Peut-être que je suis morte. Je pousse sur les bras pour me relever. Non, la mort ne peut pas ressembler à ça. Je ramasse mon sac et l'ouvre pour en détailler le contenu. Je pense avoir des hallucinations. Car à l'intérieur, il y a des liasses et des liasses de billets. Des milliers d'euros, sans doute plusieurs dizaines de milliers. Tout est tellement confus dans ma tête que je ne me pose même pas la question de savoir pourquoi l'autre malade transportait une telle somme d'argent dans son pick-up. Dans l'une des poches latérales, je trouve également un épais cahier bleu cartonné, ainsi qu'une carte de téléphone. Et à cet instant précis, ce sésame me paraît avoir plus de valeur que les milliers d'euros. Je fais quelques pas sur le goudron. Je suis au milieu d'une construction en forme de U. Le premier bâtiment est assez ancien, en briques brunes, avec un toit d'ardoise. L'autre est moderne, un parfait parallélépipède de béton et de verre. Un bruit de moteur, un gyrophare bleu qui clignote, une ambulance qui déboule dans le parking. J'ai la peur au ventre. À tout instant, je m'attends à voir surgir Kiefer. Il faut que je quitte cet endroit. Mais pour aller où ? En me faufilant entre les voitures, je remarque un panneau lumineux. Centre hospitalier de Saverne. A priori, je me trouve devant un hôpital. Mais qui m'a amené ici? Pourquoi dans cet arrière-cour? Combien de temps s'est écoulé depuis que j'ai perdu connaissance? Un moment, j'hésite à entrer dans le hall, mais j'y renonce. Il faut que j'appelle ma mère. Je n'ai confiance qu'en elle. Elle saura me guider et me dire quoi faire. Je quitte l'enceinte et poursuis mon chemin sur une route à deux voies, bordée de pavillons. Un panneau indique que le centre-ville est proche. Je marche. La pluie a cessé, et à présent l'air est presque doux. Je ne sais toujours pas quelle heure il est, ni quel jour nous sommes. En passant devant une habitation, je remarque le petit porche qui surmonte une porte d'entrée devant laquelle tous les membres d'une famille ont laissé sécher leurs impairs et leurs chaussures pleines de boue. J'escalade la clôture et m'empare d'un coupe-vent et de la paire de baskets qui doit appartenir à la mère de famille. Presque ma taille, je pense en les enfilant et en coinçant sous le paillasson deux billets de 50 euros que j'ai piochés dans le sac. Je marche. J'ai le tournis. Je n'arrive toujours pas à croire que je suis libre. Je pense que je vais me réveiller d'un instant à l'autre. Je marche, comme une somnambule. Cette fois, les médicaments me cassent les jambes et embrument mon esprit. Je marche. Et bientôt, j'arrive à Saverne, place de la gare. Son horloge marque 1h55 du matin. Plus loin, un panneau prévient « Strasbourg, 54 km ». Donc, je suis dans l'est de la France. Ça n'évoque absolument rien pour moi. On m'aurait dit que je me trouvais à Lausanne ou à Brest, que je n'aurais pas sillé davantage. Tout me paraît tellement irréel. La place est déserte, à l'exception de deux SDF qui dorment devant des vitrines de magasins. À l'entrée de la gare, il y a une cabine téléphonique. J'entre à l'intérieur, mais je ne ferme pas la porte. Une odeur d'urine poisseuse et asphyxiante contamine le sarcophage. Mes mains tremblent au moment d'introduire la carte de téléphone dans la fente. Je vérifie qu'il reste des unités et essaie de déchiffrer la fiche plastifiée qui présente les instructions pour téléphoner à l'étranger. Je lis, mais je ne comprends rien, car le mode d'emploi est recouvert de graffitis tous plus cons les uns que les autres. C'est ça la France. Nelly aime sucer des vieilles bites. Le Gewürztraminer vaincra. Anne-Marie a le choix dans la date. Anne-Marie a le doigt dans la chatte. Je suis un poète. Au bout de 5 minutes, et après plusieurs manipulations, je finis par obtenir une tonalité. 6 sonneries s'égrènent avec une lenteur désespérante, quand enfin ma mère décroche. C'est là ma véritable libération. « Maman, c'est moi, c'est Claire. Je me suis échappé, maman, je me suis échappé !» Mais à l'autre bout du fil, ce n'est pas ma mère. C'est Une dame qui m'explique tranquillement que ma mère est morte il y a déjà 2 ans. D'abord, j'ai l'impression que l'information ne m'atteint pas, que mon cerveau la refuse. Mes oreilles bourdonnent et me font très mal, comme si on m'enfonçait des clous dans les tympans. Puis l'odeur d'urine me monte à la tête. Je m'agenouille pour vomir, mais je n'en ai même pas la force. Et à nouveau, je sombre dans un grand trou noir. 4. Il était 6 heures du matin lorsque j'ai repris connaissance. Comme un zombie, je suis entré dans la gare et j'ai trouvé une place dans un train pour Paris. Je me suis effondré sur mon siège, le visage collé à la vitre. Et à nouveau, je me suis assoupi jusqu'à ce qu'un contrôleur me tire de mon sommeil. Comme je n'avais pas mon titre de transport, j'ai payé l'amende et le prix du billet en liquide. Le type a encaissé mon argent sans ticket. Je crois que lui-même n'était pas bien réveillé. Puis je me suis rendormi aussitôt. Un mauvais sommeil, peuplé de songes incertains. Je me souviens seulement qu'un peu après Reims, le train s'est arrêté au milieu de nulle part et qu'il est resté immobilisé pendant plus d'une heure et demie. Dans le wagon, les gens râlaient. Leurs invectives me faisaient penser aux graffitis vulgaires de la cabine téléphonique.
Pays de merde! Pas un mec pour nous expliquer ce qui se passe! Encore une de leurs putains de grèves! Vivement qu'on les privatise!
Puis le train a fini par repartir, et à cause du retard, n'est arrivé qu'à 10h30 à Paris. Et maintenant? Pendant toute la seconde moitié du trajet, je n'ai cessé de penser à Candice Chamberlain. Candice était une jeune fille très gentille et très jolie, qui habitait à 100 mètres de chez moi, à Harlem. Elle était plus âgée que moi, mais on se parlait souvent quand on rentrait du collège. C'était une bonne élève, une fille bien qui voulait s'en sortir. Elle m'avait prêté des livres, donné des conseils judicieux et mis en garde contre pas mal d'illusions. Un jour, pourtant, un peu après son 16e anniversaire, elle a suivi une bande de garçons qui habitaient dans les Baumer Apartments, un complexe d'HLM situé au-delà de la 150e rue. Je ne sais pas pourquoi elle, d'ordinaire si réservée et si prudente, s'est laissée embarquer dans cette galère, ni comment les choses se sont déroulées précisément. Tout ce que je sais, c'est que les types l'ont gardée enfermée dans un local à poubelle désaffecté, au sous-sol de l'un des bâtiments. Tout ce que je sais, c'est qu'ils l'ont violée à tour de rôle pendant des jours, et qu'il a fallu 2 semaines aux flics pour la retrouver et la libérer. Après quelques jours d'hospitalisation, Candice est revenue habiter chez ses parents, sur la 134e rue, près de l'église épiscopale. À partir de ce moment-là, les médias se sont déchaînés. Nuit et jour, des reporters, des photographes et des paparazzis ont fait le siège de la maison des Chamberlain. Chaque matin, en allant à l'école, je voyais les journalistes et les caméramans qui tournaient des images pour illustrer leurs interventions en direct pour les chaînes locales et nationales. Plusieurs fois, le père de Candice a demandé aux médias de respecter la douleur de sa fille et de foutre le camp, mais personne ne l'a écouté. Candice était noire, l'un des violeurs était blanc. Les communautés et les hommes politiques essayaient d'instrumentaliser un drame qui, à mon avis, relevait plus de la barbarie que d'un quelconque problème racial. J'avais 11 ou 12 ans à l'époque, et cet épisode m'avait traumatisé. Que foutaient tous ces adultes devant cette maison? Ces gens-là avaient fait des études? Qu'attendaient-ils groupés en meute, pressés devant cette clôture? Qu'attendaient-ils en fouillant dans les poubelles du passé, espérant tomber sur le témoignage d'un voisin, d'une voisine, d'un ami d'enfance qu'ils charcuteraient, sortiraient de son contexte, trituraient à l'infini, se délectant de cette huile nauséabonde qu'ils rajoutaient eux-mêmes sur le feu? C'est le principe de la liberté d'informer, m'a répondu l'une des reporters à qui j'ai posé la question un soir en rentrant du collège. Mais informer de quoi? Une jeune fille avait vécu l'innommable et sa famille souffrait avec elle. Fallait-il en rajouter dans l'agression et le voyeurisme? Fallait-il vraiment produire ces images n'ayant d'autre fin que d'alimenter des conversations de bistrot et de faire frémir une audience pour vendre des encarts publicitaires débiles? Et ce qui devait arriver arriva. Un matin, Madame Chamberlain découvrit le corps de sa fille, allongée dans la baignoire, remplie d'une eau couleur de sang. Candice s'était tranché les poignets pendant la nuit. Autant que je sache, mon amie n'a pas laissé de lettre pour expliquer son geste, mais j'ai toujours pensé qu'elle avait basculé en prenant conscience qu'elle n'aurait plus jamais une vie normale. Dans le regard des autres, elle serait toujours la fille qui s'est fait violer dans les poubelles des Baumer Apartments. Fou de douleur, son père, Darius Chamberlain, s'était emparé de son fusil et était sorti sur la terrasse. Très calme, il avait chargé son arme et pris tout son temps avant de tirer plusieurs fois dans le tas, blessant grièvement la journaliste qui m'avait fait la leçon sur le principe de la liberté d'informer et tuant un caméraman qui avait lui-même deux enfants. Depuis ce jour-là, je n'ai plus aucune illusion. Chez l'Otaret Kiefer, il y avait des livres. C'est la seule distraction qu'il m'a autorisée. Une petite bibliothèque qu'il avait installée dans ma cellule sur des étagères. De vieux livres de philosophie et de psychologie ayant appartenu à sa mère. Pendant 2 ans, à part un peu d'écriture sur des cahiers que Kiefer confisquait dès qu'ils étaient pleins, je n'ai pas eu d'autre passe-temps que la lecture. J'ai lu et relu certains livres au point d'en connaître certains passages par cœur. L'homme n'est point cet être débonnaire au cœur assoiffé d'amour, écrit Freud dans « Malaise dans la civilisation ». Oui, l'homme est son pire prédateur. L'homme est en guerre contre lui-même. Au plus profond de lui, l'homme est habité par la violence, l'agressivité, la pulsion de mort, la volonté de dominer son semblable et de l'asservir en l'humiliant. Gare de l'Est. Les escalators sont en panne. En grimpant les marches des escaliers, j'ai du mal à résister à la foule qui me piétine et m'emporte comme une vague. Alors que je me sens défaillir, je trouve refuge dans le café impersonnel d'une chaîne de restauration. Comme l'endroit est bondé, je suis obligé de m'asseoir au comptoir. J'ai des gargouillis dans le ventre. J'avale un chocolat et 2 croissants. Des larmes coulent sur mes joues, mais j'essaie de les retenir pour ne pas me faire remarquer par le serveur. Déjà que je suis habillé n'importe comment. Et maintenant, je ne veux pas finir comme Candice. Mais je sais que moi non plus, je ne pourrai plus jamais avoir une vie normale. Dans le regard des autres, je serai toujours la fille qui a été détenue et violée pendant plus de 2 ans par un psychopathe. Ce sera mon étiquette, indélébile. Je serai cette bête de foire, obligée de répondre aux questions. Qu'est-ce que le monstre vous faisait? Combien de fois? Comment? La police voudra savoir. La justice voudra savoir. Les journalistes voudront savoir. Je répondrai. Mais chaque réponse entraînera une autre question. Ils en demanderont toujours plus, encore, que je déballe tout, encore et encore. Peut-être qu'un jour je tomberai amoureuse. Je rencontrerai un homme qui m'aimera, qui me fera rire, et qui respectera aussi bien mon indépendance que mon besoin d'être protégé. Ça me plaît de penser ça. D'imaginer notre rencontre comme dans un film. Ça arrivera quand je m'y attendrai le moins. Enfin, c'est comme ça que je le projette dans ma tête. Et viendra un moment où il apprendra qui je suis. La fille enlevée par Kiefer. Une étiquette qui masque toutes les autres. Et peut-être qu'après ça, il m'aimera encore. Mais plus comme avant. Avec plus de compassion et plus de pitié. Mais je n'en veux pas de cette pitié. Je ne veux pas être cette fille dans le regard des autres. Je tremble. J'ai froid. Déjà, je ne ressens plus mon évasion comme une victoire et une libération. Je suis forte. Je peux me relever de tout. J'ai enduré 2 ans d'enfer. Je ne veux pas redevenir une bête apeurée. Après avoir été la proie d'un psychopathe, il n'est pas question que je troque un enfer contre un autre. Mes yeux se ferment. Je suis épuisé. Le contre-coup physique et psychologique des dernières heures que je viens de vivre. Assise sur mon tabouret, je lutte pour ne pas m'écrouler. Je revois l'image de ma mère et des larmes se remettent à couler. Je ne connais pas les circonstances de sa mort, mais je sais déjà que, dans un sens, c'est moi qui l'ai tué. Le temps s'est dilaté. Je n'ai plus de repères. Dans ma tête, certaines choses sont limpides, d'autres totalement confuses. Soudain, sur l'écran de télévision accroché dans un coin du café, j'aperçois des images qui me semblent surréalistes. Une véritable hallucination. Je me frotte les paupières et je tends l'oreille pour écouter le présentateur de la chaîne d'info.
Découverte macabre en Alsace, où un important incendie s'est déclaré tôt ce matin dans une habitation de la forêt de la Petite Pierre à proximité de la ville de Saverne. Alertés par un gendarme, les pompiers se sont déployés efficacement pour venir à bout des flammes qui commençaient à s'étendre aux zones boisées environnantes. L'enquête devra déterminer les causes de l'incendie, car après cette intervention, les soldats du feu ont découvert au moins 4 corps dans cette maison qui appartenait à Heinz Kiefer, un architecte allemand qui...
Mon cœur se déchire. Une boule se forme dans ma gorge et bloque ma respiration.
Fuir.
Je pose un billet sur le comptoir et me lève sans attendre ma monnaie. J'attrape mon sac et je quitte le café. Claire Carlyle n'existe plus. Désormais, je suis quelqu'un d'autre.